Ça lit quoi ? Une émission littéraire de Radio Campus Paris, un lundi sur quatre, de 20h à 21h sur le 93.9 FM.
Le froid et l'heure d'hiver rendaient nos journées un peu maussades. Un événement à la croisée du milieu littéraire et du milieu queer parisien est venu réchauffer les cœurs. Il s'agissait de la remise des prix de la toute première édition du prix Goncourt, le pendant lesbien du prix littéraire le plus connu de France. Et évidemment, avec l'équipe de Saliqua, nous étions présentes et très heureuses de voir le couronnement de Fatima Das, Wendy Delorme, Nelly Slim et Sabrina Calvo pour leurs œuvres respectives. En plus de la proclamation des résultats, la soirée a été rythmée par plusieurs interventions, et notamment la lecture par Karim Katan de son poème « Ce qui me reste pour vous parler », publié dans l'ouvrage collectif « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie », un ouvrage pour la Palestine, paru en octobre de cette année aux éditions du Seuil. Cette lecture nous a émus, nous a fait nous poser des questions et surtout nous a donné envie d'échanger avec son auteur. Et ça tombe bien, Karim Katan est avec nous ce soir sur le plateau de Saliqua. Bonsoir Karim.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, je suis bien entourée. En studio, il y a Garance qui mènera aussi l'entretien et qui participera au Book Club. Salut Garance.
Salut.
Et à la réalisation, mais qui prendra aussi la parole lors de cette émission, c'est toujours Anna. Salut.
Salut.
Un peu difficile le début. C'est notre premier direct, pardonnez-nous. Ce soir, au programme, en plus de notre échange avec Karim Katan, vous pourrez entendre une nouvelle chronique de Margot, dans laquelle son amie Léa vous parlera de « Vie rebelle », le dernier ouvrage paru en français de l'écrivaine et historienne américaine Cedia Hartman. Et enfin, dans le Book Club en fin d'émission, on va parler de « Zami », le roman autobiographique d'Audre Lorde. Merci d'écouter Saliqua. On est en direct pendant une heure sur le 93.9 FM.
Saliqua, sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on commence avec toi, Karim. Tu es palestinien et français, tu as déjà plusieurs ouvrages à ton actif, un recueil de nouvelles, deux romans, dont le dernier, L'Eden à l'aube, est paru en 2024 aux éditions Elizade. Et cette année, c'est à travers un recueil de poésie que nous pouvons te lire, avec Hortus Conclusus, ou Hortus Conclusus, selon...
Je sais pas, je parle pas latin.
Alors ce sera au choix, paru aux éditions Extrêmes Contemporains. Une fois plus, merci d'avoir accepté de venir au micro de Saliqua. Et comme je l'ai dit en introduction de cette émission, tu étais présent le soir de la remise du prix Goncourt et tu as lu un poème qui ne se trouve pas dans ce recueil, comme je l'ai dit, mais dont nous allons quand même parler. Alors tout d'abord, pour toi, qu'est-ce que ça représente le prix Goncourt ?
D'abord, merci de m'accueillir. Je suis non seulement trop content d'être là, mais je suis très content du coup de participer au premier live. ça, c'est vraiment chouette.
Pour le meilleur ou pour le pire, on verra.
J'espère pour le pire, c'est ça qui est sympa. J'espère qu'il y aura plein d'erreurs et de fautes et de maladresses. C'est ça qui est chouette à la radio.
Anna, coupe son micro.
Par exemple. D'abord, j'avais été hyper touché d'être invité à la soirée du Goncourt parce que donc quand elles m'ont contacté, l'idée était que elles voulaient faire de la place pour la Palestine et pour la réflexion sur la Palestine lors de cette soirée littéraire, et j'ai trouvé ça à la fois très intelligent en fait, tout simplement, et très très cohérent avec la proposition littéraire et politique que pouvait représenter le Goncourt. Et pour moi, c'est plein de choses. Déjà, c'était une super soirée. Je pense que c'est quand même important. Enfin, je veux dire, c'était une atmosphère incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Enfin, donc, j'étais un peu intimidé parce que la salle était tellement sympa et en folie que quand je suis monté, je me suis dit bon... Je vais un peu casser l'ambiance et puis donc mais j'étais très très content de le faire et j'ai trouvé ça vraiment à l'image du prix, le fait que un livre ne soit pas récompensé mais quatre. C'est vraiment, voilà, on sait tous que bon, les prix littéraires, c'est quelque chose de avec lequel il faut exister, mais qui est tout à fait regrettable parce que singulariser des livres, c'est trop triste en fait, comme procédé. Et donc créer un prix, mais qui est un prix qui finalement récompense plusieurs livres à la fois, j'ai trouvé ça hyper beau. Donc j'étais très content d'être là, et même j'avais trouvé ça très joli que toute la première partie de soirée, donc c'était un quiz littéraire Mais genre, c'était vraiment sympa. Enfin, parfois, on se dit, quizitaire, mon Dieu, ça va être l'angoisse. Mais en fait, c'était hyper bien fait. Et
animé l'un... par Hortense Bellotte,
ça. Oh, ouais, c'est ça. Et deux personnes, je ne sais plus qui était l'autre, mais je sais plus. Mais c'était incroyable.
J'arrive au milieu, donc.
Ouais, c'était incroyable. Et en fait, finalement, l'enjeu du quiz littéraire, c'était de mettre en avant tous les livres qui étaient lauréats. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai trouvé ça fin, voilà, comme je disais, à la fois fin politiquement, littérairement, et en termes de communauté, quoi. Ouais, c'est hyper juste.
Oui, parce que pour préciser, donc, le prix Goncourt, ça a été créé cette année, et c'est un pendant lesbien pour le prix Goncourt, et l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur des littératures lesbiennes, mais aussi des littératures minoritaires dont on entend moins parler. Et le jury a décidé de récompenser 4 livres et pas un seul, pour remettre les auditeurs dans le jeu.
Et le fait, du coup, d'ouvrir donc il y a eu le quiz, puis après, du coup, t'as ouvert comme ça la lecture avec ce poème, donc ce qui me reste pour vous parler. Ah non, pardon,
c'est ça.
Ah oui, d'accord. Et du coup, pourquoi celui-là en particulier ?
J'avais beaucoup hésité parce que j'avais un peu carte blanche. Je pouvais dire ce que je voulais. Et je me suis dit, c'est une soirée littéraire. Ce poème, c'est un poème qui a été écrit...
En direction.
En direction pour s'adresser à mes pères du monde littéraire. Et donc, ça s'y prêtait bien, je trouve que... Et puis moi, c'est quelque chose que je dis dans ce poème. C'est quelque chose que je veux... que j'aimerais qu'on entende. Pour moi, le contenu de ce poème qui parle quand même de toute l'ambivalence de ma position en tant que palestinien français qui part de la Palestine, mais tout en le faisant de la manière la plus acceptable et respectable
avec le
possible,
sourire.
Avec le sourire, la gentillesse, tout ça. Je dois rester gentil dans la vraie vie, mais bon, au moins dans le poème, je peux faire quelque chose d'autre. Et donc, je voulais que ça s'entende. Particulièrement, quand même, le Goncourt, c'est quand même, ça réfléchit vachement à la question des convergences, et je trouvais ça beau qu'on puisse le mettre là, parce qu'au fond, ce que je raconte dans ce poème, en tant que Palestinien, je pense que c'est... On peut le transposer, il y a beaucoup de différences, évidemment, mais on peut le transposer d'une manière ou d'une autre à ce que serait l'expérience d'une écrivaine lesbienne, en fait. Certains des mécanismes, c'est des mécanismes que doivent faire toutes sortes de gens. Et donc, je pense que c'est un public qui pouvait... l'entendre...
Et en même temps, ça s'adresse aussi à nous, à ce public-là, parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup marqué sur ce militant qui t'appelle mon frère. Et donc finalement, c'est quand même aussi quelque chose d'assez frontal. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on entend aussi. C'est parce qu'on est convoqué à travers ce poème.
Oui, tout à fait. C'est un poème pour... ce mot, il est un peu galvaudé de nos jours, mais c'est un poème pour mes alliés, en fait, d'abord. C'est pas un poème pour les connards.
De toute manière, ils n'auront pas le livre.
Ils n'auront pas le livre, oui, exactement. Donc, ça.
Est-ce que là... Parce que, en même temps, tu parles de... tu veux qu'on entende ces mots-là. Tu as publié plusieurs tribunes. Ouais. Et en même temps, tu parles de ces mots si morts. Et donc, est-ce que la poésie se joue là, dans ce paradoxe d'une démonstration claire parvient pas à son but.
Oui, moi je me suis beaucoup... je me considère pas tout à fait comme poète, parce que je crois que c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas mon activité, c'est vraiment, je crois, le roman. Mais la poésie, c'est une chose à laquelle j'arrive à chaque fois par... un peu par accident. Vraiment par accident. Et donc ces deux dernières années, tout le long... Pardon. Le direct. Tout le long du génocide, j'ai écrit 2 poèmes spécifiquement, presque malgré moi, qui sont des poèmes qui venaient d'abord de la colère et qui étaient en effet presque le pendant de la tribune. C'est-à-dire là où dans une tribune, il faut dans un cadre assez court et structuré, il faut démontrer, étayer et dérouler un raisonnement, ce qui est très important. Le poème, il nous permet aussi un peu d'exprimer des choses plus, peut-être un peu moins démontrables, peut-être un peu moins étayables, juste un sentiment de frustration, d'impossibilité de s'exprimer. Alors, c'est toujours intéressant de s'exprimer en disant qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Paradoxe de base de la poésie, mais voilà, il permet peut-être de
d'entrer autrement.
Mmh. Ouais, et de toucher ailleurs, tout à fait. Dans un registre aussi plus émotionnel, que ce soit le mien qui écrit ou de la personne qui écoute.
c'est à moi, en fait. merci. Avant de poursuivre sur ta poésie, sur tes textes, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur ton parcours pour les auteuristes, notamment, qui ne te connaîtraient pas. Mmh. On ne va pas leur dire honte à eux, mais voilà.
quand même.
Un peu pour brosser en trois mots ton parcours. Toi, tu es née en Palestine, à Bethléem, ce dont tu parles dans ta préface notamment. Tu vis principalement en France, où tu as fait aussi tes études, et tu as notamment un doctorat en littérature comparée. Et je me demandais justement comment la littérature est entrée dans ta vie. Et en fait, je vais garder ma question pour après. On va commencer comme ça.
Oui, je suis né à Jérusalem, mais j'ai grandi à Bethléem. Pardon. Je suis de Bethléem, en effet. Enfin, je suis bethléemitain très profondément. Justement, la préface parle beaucoup de ça. la littérature est rentrée dans ma vie parce que j'étais un petit garçon timide. Comme beaucoup de gens, donc la littérature c'était aussi une évasion. J'ai quand même grandi sous occupation, donc sous occupation quand même les possibilités d'évasion elles sont très importantes, et donc la littérature très 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 vite est devenue l'une de mes manières de m'évader, d'imaginer d'autres mondes, d'autres histoires. J'ai envie de dire, c'est bateau, mais les choses bateau, elles sont importantes dans la vie, en fait. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi juste pour ça qu'on aime la littérature, parfois. Et juste pour un peu compléter, et j'aime beaucoup rappeler ça, moi, la littérature, elle est entrée dans ma vie à peu près au même moment que les jeux vidéo, qui sont une autre forme de lecture, une autre forme d'évasion. Et ces deux formes, elles ont toujours été hyper proches l'une de l'autre pour moi. Les jeux vidéo sont présents dans mes livres, même s'ils ne le sont pas forcément de façon hyper explicite, même pour le moment dans mes livres, pas explicitement, mais ils sont là, ils ont coloré mon rapport à la lecture. Donc, très tôt, comme ça. Parce que je venais aussi d'une famille, tout simplement, qui peut se permettre d'avoir des livres, ce qui est important.
Oui, bien sûr. Non, c'est marrant que tu dises ça, parce que notre émission précédente, on a reçu une autrice qui parlait de jeux vidéo dans son livre, pour le coup, quand vous avez aussi une matière littéraire.
Trop bien.
Nour Bekar, ouais.
C'est qui ?
Nour Bekar, du coup, qui était aussi sélectionnée pour le prix Goncourt.
Trop bien, bah, je vais regarder.
Voilà. Donc, marrant les échos que ça crée. Et oui, donc, je l'ai dit, t'es aussi entré dans la littérature par la recherche.
Ouais.
Et du coup, comment ça s'est fait de passer d'une écriture académique à une écriture littéraire ? Est-ce que c'était aussi justement pour chercher cette évasion, ou un peu, est-ce qu'il y a eu des défis
C'est un peu l'œuf ou la poule, parce que peut-être que t'écrivais
avant d'étudier l'écriture aussi. Ouais.
Oui, alors.
Est-ce que ça a été, moi je rajoute, est-ce que ça a été évident,
l'écriture ?
Est-ce qu'il y avait quelque chose de la lecture ? Enfin, l'écriture est une réponse à la lecture, ou quelque chose comme ça ?
Alors, comme d'hab dans la vie, oui et non. oui, c'était évident, c'est-à-dire que petit, j'aimais écrire des petits poèmes, j'aimais écrire des choses, j'aimais raconter des histoires par écrit. Donc, quelque part, il y avait une espèce de naturalité pour moi de l'écriture de ce genre. Mais en fait, une fois que j'ai commencé mes études...
En France, donc.
En France... je me suis senti hyper inhibé par rapport à l'écriture, parce que j'ai fait des études notamment de littérature, mais pas que, et tu te dis ce que j'ai écrit,
écrasant, quoi.
Oui, puis ce que je vais rajouter un livre de plus à ces monuments, bon. et en fait l'écriture littéraire à proprement parler, à mon entrée à l'âge adulte, en fait a été mise de côté. Aussi parce que je savais pas comment approcher des éditeurs, enfin je savais pas du tout comment ça marche tout ça. Donc moi j'ai continué mon travail de recherche, et l'écriture est revenue en cours de route, notamment J'ai repris l'écriture littéraire avant de commencer ma thèse, en fait. Mmh. Et pendant ma thèse, donc mon premier roman s'appelle Le Palais des Deux Collines, je l'ai écrit pendant ma thèse.
Ok.
Et c'est quelque chose qui, moi, m'a été très utile, c'est-à-dire que j'alternais entre l'écriture académique et l'écriture littéraire.
Mais ce n'était pas une thèse en création littéraire, c'était
non,
vraiment
une thèse en littérature comparée. D'accord, ouais. Vraiment, voilà. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que les moments où j'en pouvais plus de ce qui peut être effectivement un peu sec dans la thèse, bah, j'avais accès à cette écriture littéraire. Et à un moment où j'en pouvais plus de ces inventions, et j'avais envie de rigueur, justement, de démontrer des choses, etc., je pouvais retourner à la thèse. Et donc, ça a été une espèce d'alternance qui, pour moi, a été extrêmement positive. Et pour répondre précisément à ta question, avant que je commence à écrire de la littérature, un jour, j'avais lu une interview de Joan Didion qu'elle donnait à la Paris Review, et où elle disait un truc du genre, elle n'avait jamais fait une thèse parce qu'elle était persuadée que faire une thèse, ça dessécherait complètement son écriture littéraire. Je paraphrase, mais grosso modo, c'était un truc comme ça qu'elle avait dit, ça m'a traumatisé.
Mais ce qui peut s'entendre, enfin,
si oui, c'est tellement,
il y a tellement des cadres d'écriture académique aussi que ça peut. Enfin, moi, je sais pas, quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit comment on sort justement de ce truc très lourd.
Oui, complètement, non, mais ça s'entend complètement. Et c'est juste que du coup, j'étais hyper flippée, ouais. J'étais la merde, mais comment
dans
faire
quoi, je me suis embarquée.
Ouais. Et c'est vrai que j'avais tout le temps ça en tête, et même pendant la thèse, je me disais, ok, il faut que tu saches un peu juste compartimentaliser. Enfin, voilà, j'ai adoré faire une thèse. Je trouve que l'écriture d'une thèse, c'est quand même un privilège extraordinaire. Enfin, c'est,
et le temps accordé.
Enfin, et puis ça t'apprend à faire des choses sur le temps long. Enfin, bref.
Et puis au-delà d'écrire, il y a quand même se plonger dans les textes. Enfin, ça, pour le coup, ça reste une nourriture.
Tout à fait.
Pour
tout l'écriture. Tout à fait. Et puis finalement, une recherche, c'est beaucoup de modestie aussi. On dit beaucoup de mal de, parfois. Mais enfin, je veux dire, une vraie recherche, elle se fait aussi dans la modestie de choses qui sont autres que toi. Donc finalement, moi, ça m'a bien. Après, je suis plus du tout dans la recherche. Ce qui veut peut-être dire quelque chose, mais c'était un
bon
équilibre. Non. Mais j'aimerais bien retourner à l'enseignement. En fait, après la thèse, bon, je me suis lancé dans d'autres trucs. J'ai travaillé dans l'art un peu et j'écrivais mes livres. Mais maintenant que je suis un peu plus âgé, j'aimerais bien revenir à l'enseignement. Mm-hmm. En fait, quand je faisais la thèse, je me sentais trop jeune. Enfin, quand je donnais cours, j'étais là, mais lambec. Enfin, qu'est-ce que tu donnes cours à des gens qui ont 3 ans de moins que toi, en fait, je trouvais ça douloureux, ça, en fait. Je me disais, qui es-tu pour donner cours? Aujourd'hui, je suis un tout petit peu plus vieux, je me dis, bon, j'ai peut-être 2-3 trucs que je peux transmettre à d'autres.
Mais ça, c'est intéressant parce que justement, à chaque fois, on se pose la question de comment on gagne sa vie en tant qu'écrivain, écrivaine.
Ouais.
Et du coup, moi, j'étais vraiment persuadée que c'était comme ça. Mais peut-être que tu n'as pas envie de nous révéler tes secrets.
Non, il faut parler de thunes. Alors non, jusqu'à l'an dernier, où il y a 2 ans, j'avais un travail, mais c'était un autre travail. Donc je travaillais dans les arts.
Okay.
Donc je travaillais notamment dans une fondation. Puis je travaillais avec des. Enfin, je travaillais dans les arts, voilà, en gros. Okay. Et ça, c'était une chose à la fois que j'aime beaucoup faire, mais qui était aussi mon job. Et un peu avant la sortie de L'Éden à l'aube, pour toutes sortes de raisons, je me suis dit, j'aimerais me consacrer, essayer de me consacrer pleinement à l'écriture, y compris en termes de revenus, c'est-à-dire voir
les
un
résidences.
Peu... voilà. Alors, j'ai la chance, ça marche, je peux le faire, mais c'est un prix assez particulier, c'est-à-dire que quand tu vis de l'écriture, quand tu n'es pas genre une superstar, tu ne vis pas vraiment de la vente de tes livres. Mm. Même si tu peux en vendre pas mal, c'est pas quelque chose qui constitue un revenu. Ce qui constitue un revenu, c'est tout le reste.
Ouais.
C'est les rencontres littéraires, quand tu es payé, parce que tu n'es pas toujours payé. Enfin, voilà, donc tu deviens une espèce de troubadour qui est en permanence en déplacement, qui va dans des endroits pour faire des trucs, qui était un peu payé, les ateliers d'écriture, etc. Donc tu bricoles un peu un revenu.
Par exemple, ça existe quand même les résidences sur un temps plus long.
Oui, mais tu sais, et c'est sympa de faire des résidences, mais mais c'est des résidences, c'est faut pouvoir les faire.
Oui,
faut pouvoir s'absenter de chez soi.
Ah non, bien sûr, bien sûr. Mais c'était une question ouverte.
Oui.
Mais je pense qu'on il y a un projet quelque part de faire une émission spéciale sur sur le métier d'écrivain parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas trop, je pense. Mais sur ce, le temps passe trop vite et on va faire une petite pause musicale pour se remettre de toutes ces premières émotions. On va écouter Super Love de Yuki. C'était Super Love de Yuki, vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est l'émission Salikwa où on parle de littérature. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Margot. On va y écouter une invitée, Léa, qui nous parlera de sa lecture de Vie rebelle de Cédia Hartmann.
Salikwa ? Salikwa ? On a dit Salikwa les filles, sur Radio Campus Paris.
Je suis Léa Payet et je suis doctorante en histoire. Et donc j'ai lu le dernier livre de Hartmann qui a été traduit l'année dernière. Donc le livre, c'est Vie rebelle, histoire intime de filles noires en révolte, de radicales queer et de femmes dangereuses. Et c'est l'histoire des deux femmes, des jeunes filles, des adolescentes, des femmes queer. Des personnes queer post-émancipation, donc post-esclavage, qui prennent part à ce mouvement de la grande migration du sud des États-Unis vers le nord, nord-est, en direction des grandes villes où les anciennes populations esclavisées cherchent en fait une forme d'émancipation à travers la ville. Donc Hartmann s'intéresse à ces femmes parce qu'elles sont rebelles dans le sens où elle ne se conforme pas aux normes de respectabilité bourgeoise et aux normes capitalistes qui voudraient que ce soit des actrices qui participent à la production de richesses, mais toujours dans des rôles subalternes. Elle décide de ne pas travailler ou de travailler de manière épisodique, de relationner avec qui elles veulent, changer de partenaire, de relationner avec des femmes, de s'habiller en homme.
But it was that recognition of both the enormous force of violence and exploitation and terror, and also the kind of the aspiration for something otherwise, which was, you know, the practice of living as if we were free, or that we, you know, could be free, or that freedom was just within our grasp.
Elle vient de la discipline de la littérature, mais elle fait aussi l'histoire. Et en gros, son projet intellectuel, je pense qu'il est vraiment interdisciplinaire dans le sens où il est à la croisée des deux. À la fois, elle se repose sur un travail d'archives qui est énorme, et à la fois, elle incorpore sa créativité littéraire et son style dans l'écriture.
I do the research of a scholar, but I want the work to read with the beauty of a novel.
C'est ce qu'on peut résumer à travers ce qu'elle a théorisé comme critical fabulation, qui consiste à introduire les potentielles émotions et les pensées des acteurs et des actrices dans son écriture. C'est très beau parce que, autrement, sans cette part de créativité et d'imagination de l'autrice, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en fait en histoire. Elle prend des fragments de vie pour constituer une histoire collective, et c'est ça qui est très fort, c'est que genre à travers l'intimité individuelle de personnes différentes, bah tu fais l'histoire d'un groupe. Je pense que c'est très précieux que ce livre ait été traduit en France parce qu'il donne à voir en fait ce qui est possible de faire. Et c'est ce que pointe justement Audrey Célestine dans la préface du livre. Elle écrit « À la lecture d'un tel texte, je ne peux m'empêcher de penser au cœur formé par celles et ceux qui, dans la France d'aujourd'hui, offrent à leur tour des récits, des histoires et font voir et entendre des voix inaudibles et des corps invisibles. Le texte de Saadia Hartmann nous conforte et nous réconforte. » Et c'est vrai que ce texte nous conforte et nous réconforte parce qu'on a besoin... On a besoin de faire des choses comme ça. Rares sont ceux qui les comprennent, les étudient comme si elles présentaient un intérêt, prennent conscience de leur valeur intrinsèque. En prêtant une oreille attentive, on peut entendre le monde entier dans un simple bend, une note tirée, dans les paroles désinvoltes d'une chanson, dans une seule voix de la parole collective. On peut entendre, depuis le premier navire négrier, jusqu'à la jeune femme retrouvée pendue dans sa cellule. On peut s'émerveiller devant la capacité de ces femmes à habiter la peine de chacune d'entre elles comme si c'était la leur. Alors, en regardant l'une de ces jeunes filles, on voit toutes les histoires jamais racontées jaillir en trombe de sa bouche ouverte. Un tome entier de philosophie en une seule complainte. Dans les recoins les plus secrets, les plus obscurs d'un champ opaque, il est clair que c'est la vie elle-même qui est en jeu.
Merci Margot pour cette belle chronique. Et nous sommes toujours en studio avec Karim Caton pour parler du recueil de poésie Hortus Conclusus, paru en avril 2025 aux éditions Extrême Contemporain. Tout de suite, on te propose, Karim, de lire un extrait de la préface du livre pour commencer par le commencement.
Bien sûr. Donc, je vais lire les premières lignes de la préface qui s'appelle « Vers la vallée des roses ». Quelques mots s'imposent, car ce recueil, une espèce de pèlerinage par jardin, ne peut exister sans contexte. C'est-à-dire que des poèmes ne sauraient paraître alors qu'un anéantissement a lieu en Palestine, sans y faire référence ou s'y enraciner. Qu'est-ce qu'un recueil qui ne prend pas en considération la destruction de Gaza, ni le rétrécissement inéluctable du territoire en Cisjordanie ? Pourtant, ces poèmes n'en parlent presque pas, et aucun n'émerge du moment historique présent. Dès lors, une mise au point est nécessaire. J'aurais préféré me passer d'explications, laisser ces poèmes se suffire à eux-mêmes, composer en un jardin galaxie qui n'aurait pas besoin de guide, marqué par ses seuls attributs, ses arbres, ses fleurs, ses astres, ses parterres et ses perspectives. Les laisser comme ils aspirent à l'être. Mais c'est un luxe d'écrivain, bien sûr, et tout change après Gaza. Ce nom qui désigne désormais un lieu, un moment, un acte et un échec tout à la fois.
Donc c'est le début de ta préface qui ouvre Hortus Conclusus. Et est-ce que, selon toi, est-ce qu'on pourrait dire finalement que c'est une espèce de cas de conscience, ou en tout cas le fait de se poser la question, est-ce qu'on peut écrire encore de la poésie après le génocide en cours à Gaza? Est-ce que ce serait ce...
C'est plus précisément, je dirais même, la question, est-ce que... Parce que le recueil lui-même...
Est déconnecté.
Ouais, ne parle pas vraiment de ça. Ça parle un peu de la Palestine, bien sûr, ça parle d'expérience palestinienne politique, etc.
Mais pas du moment,
mais pas du moment présent.
Et d'ailleurs, la suite de la préface explique que les poèmes ont été écrits avant.
Ouais, tout à fait. Et donc c'est vrai que c'était un peu étrange pour moi d'imaginer ce livre sortir sans...
Oui, donc c'est cette décorrélation entre le moment d'écriture et le moment... Okay.
Mais avec, si je peux quand même préciser quelque chose, j'ai aussi publié un roman l'année d'avant qui s'appelle L'Éden à l'aube, qui est paru aussi en plein génocide et qui aussi avait été écrit avant.
Qui n'a pas de préface.
Et qui n'a pas de préface. Qui n'a pas de contexte, en fait, de ce point de vue-là. Oui. Et c'est très intéressant, je ne sais pas exactement pourquoi, le roman, il m'a semblé que c'était OK et même nécessaire qu'il n'y ait pas ça. Qu'il n'y ait pas du paratexte qui le mette en place. Alors que là, pour le recueil, je pense que je n'aurais pas pu publier le recueil sans ça.
Est-ce que c'est la fiction? Enfin, le poids de la poésie par rapport à la fiction
Oui, il doit y avoir...
Ou l'imaginaire qui se déploie aussi, peut-être.
Dans le roman.
Mais là, plutôt dans le fait que la poésie est associée à quelque chose de... Bon, on le verra, c'est pas le cas, mais de beaucoup plus léger, ou en tout cas quelque chose qu'on opposerait plus facilement à un propos politique.
Oui, tout à fait, parce que dans le roman, quand même, c'est plus long. Un recueil, c'est plusieurs textes. Un roman, c'est une unité de longueur assez épaisse. En plus, c'est un roman qui est quand même... ancré dans la politique palestinienne, même si c'est pas celle de l'époque actuelle, mais on peut le placer en fait dans ça. Mais je pense aussi qu'il y avait une autre chose qui est assez importante en littérature, c'est qu'il m'a semblé que je voulais pas que le roman il soit entièrement défini par par la temporalité de notre destruction. Alors c'était important aussi qu'il existe dans une autre temporalité. Alors que les poèmes, je sais pas, il fallait que quelque chose les amène à terre un peu, je pense.
Et justement, tu parles de destruction, et dans le poème, dans le recueil, pardon, les poèmes sont toujours situés en termes de lieux, et tu fais aussi la poésie finalement d'espaces qui sont disparus ou en disparition, qui sont souvent en ruine. Pourquoi, ou peut-être plutôt comment, justement, pour toi, faire de la poésie à partir de ces espaces?
Je sais pas trop. Parce que c'est assez drôle, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas... quand j'ai commencé à écrire ces poèmes qui ont fini par être un recueil, j'avais pas un système. Je m'étais pas dit, tiens, chaque poème va être associé à un lieu, etc. Enfin, parfois, on fait des choses un peu malgré nous. Et c'est vraiment à la fin, quand j'avais tout... L'entièreté des poèmes, et en fait, il y en avait beaucoup plus. Ensuite, on les a sélectionnés. En fait, je me suis rendu compte que chacun des poèmes, sans exception... émerger d'un lieu ou porter sur un lieu, soit imaginaire, soit disparu ou disparaissant,
Et à ce propos, justement, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette tension toujours entre, et peut-être qu'il se retrouve aussi, on y reviendra dans le titre, Hortus Conclusus, cette tension entre l'imaginaire que ça déploie et la réalité très concrète que ça semble représenter pour toi et même pour nous, tant que lecteurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve dans Éden à l'aube. Il y a comme un temps presque anhistorique, comme ça, avec ce brouillard ou ce. Et puis de plus en plus, il y a comme ça quelque chose de brutal qui arrive. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui. Enfin, j'arrive pas à le nommer parce que ça échappe, mais il y a cette cette tension. C'est parce que c'est ce qui t'habite ou c'est une volonté de faire...
Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire il y a une ambivalence très caractérisée envers la manière de raconter, en fait. Dans l'Éden à l'aube, c'est quand même une histoire qui résiste un maximum à nommer la Palestine, hein, à nommer
et qui voudrait s'en passer d'ailleurs,
qui rêve de s'en passer, mais qui est rattrapé, comme je suis rattrapé par cette situation. Et donc c'est une ambivalence entre la place de l'imaginaire et la place, disons, du réel, notamment du réel politique en fait en Palestine. Et cette tension, elle est aussi beaucoup due à ce qu'on attend d'un écrivain comme moi. Qui est du témoignage.
Oui, mais là c'est, pour moi, cette réalité, en tout cas dans ces poèmes-là, c'est quand même quelque chose de ce qu'on attend. Enfin, là, pour le coup, ça se décale un peu, parce que j'ai l'impression que le jardin dont tu parles, c'est un jardin, en tout cas ce que tu expliques dans la préface, de ton enfance, ou en tout cas quelque chose, un lieu concret. Et pourtant, on part après dans la légende arthurienne. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça de...
Bah, tu sais, les lieux d'enfance, souvent, c'est des lieux, quels qu'ils soient, en fait, que ce soit un jardin ou n'importe quoi, c'est des lieux qu'on habite, quand on a cette capacité, quand même, enfant, d'habiter les lieux d'un imaginaire sans limite. Une chose qu'on perd, en fait, à un moment, c'est vraiment cette capacité à avoir un imaginaire d'une étendue totale, comme ça. Et je pense qu'il y a un peu de ça, aussi. C'est pour ça qu'on va un peu partout. Dans ce recueil, en fait, il y a des poèmes qui se passent partout, en tout cas dans plein d'endroits différents.
Alors que dans quasiment chaque titre, il y a une localité.
Ouais.
Donc, il y a quand même cette volonté d'ancrer.
Oui, mais certaines localités sont des localités, tu vois, complètement imaginaires. Mais c'est aussi un goût pour la cartographie, je pense.
Donc on se retrouve encore dans les Denalobes avec Gabriel
et qui dessine des cartes. Il y a vraiment ça. Moi, pour revenir à la question des livres, moi, quand j'étais petit, je dessinais des cartes tout le temps. Et ce que je voulais être quand j'étais grand, entre autres choses, c'était je voulais être dessinateur de cartes imaginaires, ce qui n'est pas un métier.
Il y en a qui le font. Hein.
Oui, j'ai appris, mais bon, trop tard dans ma vie. Donc, je ne peux pas.
Trompé de carrière.
Ouais, vraiment, je me suis vraiment trompé de carrière. Mais finalement, je veux dire, dans un goût de l'écriture, il y a ça, il y a le goût d'inventer à partir de lieux réels, peut-être, des espèces de cartographie imaginaire.
Moi, j'étais presque frustrée qu'il n'y ait pas de cartes pour accompagner tes poèmes, justement.
On y avait réfléchi.
Je trouve que ça... Enfin, si tu peux me permettre une remarque éditoriale, je pense que ça aurait été... Enfin, après, peut-être que, du coup, le lecteur, mais la lectrice et lectoriste peuvent se faire leur propre cartographie à partir de tes poèmes, ça peut être quelque chose de...
Oui, on avait vraiment réfléchi à cette question. Ouais. On s'était dit, tiens, est-ce que le sommaire pourrait pas être une espèce de carte, quelque chose comme ça. Mais après... Je pense que c'est chouette d'être frustré qu'il n'y ait pas de carte. Parce que s'il y avait une carte, je pense que ça aurait réduit aussi un peu l'imaginaire. On se serait dit, ah oui, il y a un itinéraire à suivre. Alors que là, on n'est pas obligé non plus. Tu ne te dis pas que ça commence là et que ça se termine là. Même si, bien sûr.
Au-delà du défi cartographique lui-même
de
nous représenter. Donc je rattrape parce que je t'ai coupé. T'allais dire que c'était. Désolée. C'était qu'en tant que un écrivain palestinien, on attendait de toi. Et là, je parlais de ce concret-là, et moi, je pensais au jardin d'enfance auquel j'étais accroché. Mais c'était pas là où tu allais.
Du coup, tu veux que je finisse cette.
Oui.
Oui.
Parce que t'avais l'air partir de là.
Moi, c'est vrai que je me réclame très fort de la fiction. Parce que souvent, dans les littératures francophones, par exemple, la fiction, c'est quelque chose qu'on semble réserver à des écrivains français blancs. Et encore. Tandis que tous les autres, nous y compris, en fait,
l'autofiction du témoignage.
On est dans l'autofiction, dans le témoignage, dans le reportage, qui sont, quand je dis ça, ce sont des types d'écriture importants et qui ont leur place. C'est pas la question. C'est juste qu'on nous y assigne automatiquement. Comme si, et moi je pense qu'il y a vraiment une espèce de fond un peu assez raciste dans ça, comme si on n'était pas capable de faire de la fiction. En fait, c'est ça que je le lis comme ça. Et moi, il s'avère que non seulement j'adore la fiction, comme je vous l'ai dit, enfin, je veux dire, j'ai lu et j'ai joué à des jeux vidéo très vite, donc je veux dire, l'imaginaire, il est central dans ma manière d'écrire, et donc je le réclame, enfin, je sais pas comment on dit, je le revendique, merci. Je le revendique assez fort. Enfin, Parce que ça va à l'encontre aussi de ces attentes-là.
Et au-delà de ça, quand tu parlais de vivre sous occupation, et il y a ce motif de quelque chose de... soit de l'enfermement du jardin, soit de l'île ou quelque chose d'insulaire. Est-ce que, par exemple, là, ce besoin de fiction viendrait de...
Oui. Ou de quelque chose d'insulaire, voire d'un archipel. Tu sais, souvent, la Palestine, un peu morcelée comme ça, on l'appelle un archipel, parce que c'est littéralement ça. Ce sont des îlots entre lesquels on se déplace tant bien que mal. La fiction, elle vient... Pour moi, il n'y a pas de vérité générale, mais elle vient rendre ça entier. En fait, elle vient te faire imaginer un territoire entier. Et quand t'es gosse, tu répares un territoire comme ça. Tu répares une géographie morcelée avec ton imaginaire. Et donc la fiction, elle a ce rôle, je pense aussi, de faire imaginer des choses pleines dans des mondes où rien n'est plein. Je pense.
Merci. Je pense qu'on peut un petit peu méditer ces paroles, avec de la musique notamment. J'étais vraiment happée par ce que tu disais. Je trouve ça hyper beau et fort l'image de la fiction qui vient combler un petit peu tous ces espaces de vide et de plein. Et sur ce, donc on va écouter Longue Sardine de Oxys. C'était Longue Sardine de Oxys. Vous écoutez toujours Sally Quoi sur Radio Campus Paris. On est en direct sur le 93.9 FM et sur le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France.
Sally Quoi sur Radio Campus Paris.
Du plus noir du ciel de août, des airs de parents. Je voudrais être résorbé par le sol qu'ont foulé tes pieds. Toi, mon Seigneur, qui m'as pour la première fois vu, car tu es le seul, le premier, à m'avoir vu. Quand j'étais à la frontière, et que l'angoisse saisit ma poitrine et ma tête et mes orbites, et que je me chiais dessus, du plus noir du ciel de août, tu as ouvert l'œil et tu m'as vu. Ton regard comme une lumière, un sycomore, une eau, une sagesse. Ton regard, toi qui vois, toi qui observes, ton regard qui m'a sauvé. Depuis, pour toi, Seigneur du regard, je compose à la lune trois nocturnes. Une pour le début, la brume, une pour le milieu, le bleu, et une pour la fin, la rosée. Des nuits où je me prête et me donne entière à l'eau de ton regard.
Vous venez d'entendre Karim Katan lire un poème extrait de son recueil « Hortus Conclusus » paru en avril 2025 aux éditions Extrême Contemporain.
Et justement, on peut rebondir sur, sur le titre « Hortus Conclusus » et qui me semble est
une référence au quantique et quantique. Voilà.
Oui, entre autres choses. Alors, je sais que bon, un titre en latin, c'est un peu... voilà, c'est un peu, ça se la pète, mais en réalité, le titre...
Est-ce que c'est un texte important pour toi, le Cantique des Cantiques ?
Alors, oui, le Cantique des Cantiques, c'est un texte qui a toujours été assez important pour moi. C'est un texte qui parcourt l'Éden à l'aube aussi, qui est un roman qui est presque écrit en regard du Cantique. Donc le Cantique, c'est un chant, c'est ce chant soit d'amour, soit mystique, qu'aurait écrit supposément le roi Salomon, qui est un texte qui fait parler deux voix de l'amour par la métaphore naturelle pour parler du désir érotique ou du désir spirituel. Bon, c'est un très, très grand texte.
Et qu'on retrouve dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, tout à fait. Mais Hortus Conclusus, c'est aussi le nom d'un couvent près de Bethléem. Et la préface parle de ça, de ce couvent qui porte donc le nom du texte, dans lequel on allait, quand on était petit, surtout faire des randonnées, et qui, plus les années passent, plus il est lointain et inaccessible à cause des colons et des soldats. Et donc, ça incarne à la fois, ça fait référence à la fois au texte biblique et à la mythologie qui est associée, mais aussi à cette disparition du territoire en Cisjordanie.
Et donc le recueil, il est présenté comme une espèce de pèlerinage par jardin.
Ouais.
Et il nous emmène, je vais pas réussir à le prononcer, de Ras al-Bustan à la porte d'Ishtar à Babylone, avec ses jardins lourds, verts. Et en même temps, on va aussi à Knossos en Crète, à Kyoto. Voilà. Ou encore à
on voyage.
Et qu'est-ce qui fait que ce motif du jardin était parce que je me rappelle d'un petit passage, je vais boucler la boucle de il me semble que c'est je sais plus quel poème, mais en tout cas la violence de la colonie fait entre mille deux choses, elle produit de l'unicité là où il y a une multiplicité.
C'est la préface.
Oui, c'est la préface. Et est-ce que... et donc, par exemple, et le jardin, ce serait au contraire irréductible.
Oui, je pense que c'est... Tu sais, voilà, bon, le jardin, c'est à la fois un espace de retrait et de protection, et en même temps, un espace qui lui-même est en danger. C'est un espace... C'est la nature qui n'est pas... c'est la nature, mais domestiquée, donc il y a un côté très, très protecteur du jardin, qui est un lieu de loisir, de plaisir, normalement, et de création. Donc voilà, il y a le topos du jardin de ce point de vue-là. Et en même temps, il va à l'encontre, en effet, des imaginaires qui assèchent. Tu vois, on est vraiment dans le lieu du... luxuriant, et je pense que je suis très attiré par ces imaginaires luxuriants. Moi, encore une fois, je viens de Bethléem, qui est une ville très verte. Enfin, les jardins, c'est quelque chose d'assez important à Bethléem. Enfin, c'est cette présence des fleurs et des jardins, elle a toujours été assez centrale dans ma ville, en fait, tout simplement, dans les divers endroits de ma ville. Et donc, ça a beaucoup structuré, je pense, mon imaginaire.
Ouais, parce que justement, je pense à même à un moment où dans un des poèmes, c'est enfin parce que le topos du jardin, c'est quelque chose de très courant en poésie, comme la ruine. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu arrives à dépasser ça pour que ça devienne quelque chose de plus? Peut-être que c'est pas à toi de poser la question,
oui,
c'est au lecteur.
Je sais pas si je le dépasse. Franchement, je sais pas si je le dépasse, et je dis pas ça. Enfin, quelque part. tu répètes toujours un peu les mêmes choses. Au fond, il y a des, enfin, un truc qui est un topos, il l'est parce qu'il y a un plaisir aussi là-dedans. Ouais, je sais
donc,
pas.
Donc là, quand tu l'écris, c'est-à-dire que tu l'écris avant tout par rapport à toi, et est-ce que ça
les poèmes, ouais.
te permet, enfin oui, je suppose que tu parles toujours de toi, mais en tout cas de quelque chose de, comme tu parlais de fulgurance ou quelque chose de très ou qui est lié aussi à une colère, enfin.
Bah, Oui, pardon, mais oui, parce que c'est pour ça, je pense que je dis parfois, enfin, que j'ai dit tout à l'heure que je me considère pas tout à fait comme un poète, parce que quand j'écris un roman, je pense que je suis un tout petit peu plus conscient de ces choses. C'est vrai que les poèmes, moi, je les ai écrits sans vraiment penser que j'allais les publier.
Donc, en parallèle de
l'Éden, ouais. Mais vraiment, surtout, sans penser que j'allais les publier. Donc, un roman, quand j'écris un roman, j'ose espérer qu'il sera publié. Là, Enfin voilà, ils étaient écrits avec une autre perspective quand même.
Mmh. J'allais revenir justement sur le fait que tu t'es présenté avant tout comme écrivain de fiction. Mmh. Ouais, je voulais savoir comment s'était passé le passage à la poésie et aussi le travail de composition du recueil. Mmh. Comme tu en as parlé un peu plus tôt, vous avez, avec ton éditeur, je suppose, fait le choix de garder ou non certains poèmes. Comment ça s'est fait
Alors le passage à la poésie, je ne sais plus trop. Bah, donc j'écrivais de la poésie quand j'étais tout petit, puis j'avais complètement arrêté ça, et je sais que le premier poème de ce recueil que j'ai écrit, c'est le plus long poème, qui pour moi est un peu le poème central, qui ne parle pas de jardin pourtant, c'est Port Island, qui est un poème assez long, qui parle des intersections entre le Japon et la Palestine.
Mais qui est à la fin du recueil.
Et qui est vers la fin du recueil. C'est très curieux, je sais pas. J'ai commencé à écrire un poème, celui-là, donc, et après, à partir de lui, ont émergé plein de poèmes. Donc j'avais écrit une centaine de poèmes. Et avec mon éditeur chez Extrême Contemporain, donc, on a commencé à le composer. Le travail de composition a été très long. Et moi, j'adore ce moment-là où on choisit, en fait. On voit comment on peut agencer les poèmes, qu'est-ce qui fait sens, et dans quel ordre, et combien de poèmes on veut. C'est un peu comme faire une playlist, hein, tout simplement. En fait. Vraiment, c'est exactement ça, d'ailleurs. Donc, ça s'est fait comme ça. Moi, je travaille avec les éditeurs, c'est-à-dire que j'adore les retours des éditeurs, et c'est dans un dialogue avec les éditeurs qu'on est parvenu au choix de textes tels qu'ils existent dans le recueil maintenant.
Et c'est peut-être très indécrit comme question, mais c'est pas les mêmes éditeurs pour tes romans et pour la poésie. Est-ce que c'est pour des questions justement de forme, de niche éditoriale ou comment on le dit, mais...
Oui, alors moi, mes romans, c'est toujours chez Elisade, ouais. Donc, qui sont les éditions basées en Tunisie et en France, qui ont publié tous mes livres de fiction.
Qui ont des trop belles couvertures.
Bah, l'extrême contemporain oui, aussi, mais oui. Différent. Mais ouais, les maisons Elisade, ouais. elles sont incroyables.
Les affiches.
Et mes romans, ils sont, tant qu'elles veulent bien de moi, ils seront là-bas. Après, comme c'est une maison de romans, tout ce qui n'est pas roman, je m'autorise à le faire ailleurs. Enfin, c'est un peu ça, l'idée, en gros. Et souvent, ça se fait par rencontre, c'est-à-dire que le Hortus Conclusus, je l'ai publié, l'un des éditeurs, c'est quelqu'un que j'aime énormément, et j'avais envie de faire quelque chose avec lui, et donc ça s'est fait de cette manière-là.
Oui, parce que je suppose que ça suppose aussi un lien intime, parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément écrit pour être publié, ou peut-être que si, tu as évacué. Et donc ça veut dire que c'est arrivé quand même où tu t'es dit quand même il faudrait que je fasse quelque chose de cette matière-là, ou c'est...
Il y a un moment où j'ai eu envie de le faire. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai peut-être envie de le montrer. Mais
non,
pas au moment
de
l'écriture.
Centaine.
Après, ouais, en plus. Bon, bah. Non, mais vraiment pas au moment de l'écriture. Après, et ce qui est assez marrant, c'est que par exemple, certains des poèmes, donc quand on compose comme ça le recueil, quand je dis que c'est de l'échange, c'est vraiment de l'échange. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un poème là-dedans, dans Hortus tel qu'il existe, que moi je voulais à tout prix enlever. Mais vraiment, je voulais l'enlever. C'est celui qui est dans la quatrième de couverture, en fait, qui s'appelle Pentapolis. Ouais, c'est marrant. Et en fait, je sais pas, mon éditeur, il avait une intuition, il l'aimait beaucoup, il voulait qu'on le garde. Je suis très content qu'on l'ait gardé. Mais vraiment.
Il y avait besoin de ce regard.
Complètement extérieur. Moi, je voulais. Jusqu'à la dernière minute, j'étais là. Oh, et en fait, on l'a gardé, et je suis bien content qu'on l'ait gardé.
Et je reviens sur le poème qui se passe au Japon, là, dans une tour, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et ça, ça ne m'étonne pas que ce soit le premier que tu as écrit, parce que je trouve que, justement, il est très narratif. Enfin, il y a quelque chose, pour le coup, que je rattacherais plus au roman. Et c'est vrai que, maintenant que tu le dis, j'ai du mal à faire la différence entre ce qui serait du roman et de la poésie, parce que à contrario, on pourrait dire que dans Eden Alam, il y a beaucoup de poésie.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si j'ai une minute pour ça,
On te la donne.
Merci. moi, plutôt, en fait, pour revenir à tout sur tout ce que j'ai dit, en fait, je me rends compte que je fais pas tant la différence entre le roman, du roman et de la poésie, mais plutôt la différence entre des formes longues et des formes courtes. C'est-à-dire, ce qui est particulier dans Hortus, c'est que c'est un recueil, pas un recueil de poèmes. L'Eden Alope, c'est un livre qui commence en prose et qui se termine en vers, en fait. Donc la poésie, au sens de l'écriture poétique, elle est hyper importante dans mon travail, mais peut-être la distinction, c'est ça. C'est
et entre, la trame narrative, du coup, qui fait tenir
un truc long.
D'un seul, ouais.
Ouais.
Ok. Mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là-dessus.
Mais vous m'avez donné
Mais d'ailleurs, on peut quand même noter que ton premier livre publié, c'était un recueil de nouvelles.
Tout à fait, de nouvelles.
Donc
tout à fait.
Finalement, on a un peu un truc cyclique comme ça. Et est-ce que tu vas retourner au roman après?
Je suis dedans, ouais.
C'est formidable. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Pour les auditeuristes aguerris, vous aurez remarqué que nous n'avons pas fait le book club prévu et annoncé sur Zami, le livre d'Audrey Lorde. On a été happé par le moment et on a décidé de garder ça pour une prochaine fois. Donc restez accrochés à Saliqua si vous voulez nous entendre parler de ce livre. Merci encore une fois Karim Caton d'avoir été avec nous. Merci à Garance et Anna pour la préparation, la réalisation et la participation à cette émission. Merci à Margot et à Léa pour leur chronique. Si cette émission vous a donné envie de lire les livres dont nous avons parlé, vous pouvez retrouver toutes les références sur le site internet de Radio Campus Paris à la page de l'émission et en description de cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. Saliqua, c'est une émission à retrouver un lundi par mois sur le 93.9 FM et sur le DAB+. Sur le site internet de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de podcast. Restez sur Radio Campus Paris, la soirée se poursuit avec Absence. Alors, bonne soirée.